Chapitre 11. L'aveu. N'avez-vous rien à me conseiller ? Demanda Émilie.
Non, rien à ce moment.
Si ma tante nous fait défaut, que nous restera-t-il ?
Il nous restera Miss Rizrook elle-même, répondit Alban.
Cela vous étonne, mais soyez sûr que je parle sérieusement. La femme de charge de Sir Gervis est facilement excitable et elle boit volontiers. Il y a toujours un côté faible dans le caractère des gens de cette sorte. Si nous savons attendre l'occasion, et surtout si nous savons la saisir au vol, Miss Rizrook se trahira elle-même.
Émilie l'écoutait d'un air effaré.
« Vous parlez, dit-elle, comme si je devais avoir toujours votre appui à portée de main. Avez-vous oublié que je quitte la pension aujourd'hui pour n'y jamais revenir ? Dans une demi-heure, il faudra que je me mette en route dans la compagnie de cette affreuse mégère pour aller vivre sous le même toit qu'elle au milieu d'étrangers. Quelle perspective et quelle épreuve pour un courage de jeune fille !
Oh, mais vous aurez près de vous quelqu'un qui vous aidera de toutes les forces de son cœur et de son âme.
Que voulez-vous dire ?
Tout simplement que, comme les vacances sont ouvertes à partir d'aujourd'hui, le maître de dessin compte passer les siennes dans le nord.
Émilie s'élança de son siège. Vous, s'écria-t-elle, vous iriez dans le Northumberland avec moi ?
Pourquoi pas, dit Alban. Le chemin de fer est au service de tous les voyageurs qui ont assez d'argent pour payer leurs billets.
Monsieur Maurice, à quoi pensez-vous ? En vérité, je ne suis point une ingrate. Je sais que vous êtes bon, que vos intentions sont généreuses. Mais songez combien une jeune fille dans ma position est à la merci des apparences. Nous voyez-vous dans le même compartiment, observé par cette misérable femme, qui tirerait des conclusions odieuses de notre intimité, qui n'aurait rien de plus pressé que de me desservir auprès de Sir Gervis, précisément le jour où j'entrerai dans sa maison. C'est impossible, monsieur Maurice, c'est insensé.
Vous avez raison, dit la voix grave d'Alban. Oui, je suis un insensé. Oui, j'ai perdu le peu de raison que je possédais, Miss Émilie, le jour où je vous ai rencontré, vous promenant avec vos compagnes.
Émilie fit quelques pas en arrière, en gardant un silence significatif. Mais Alban la suivit.
Vous venez de me promettre à l'instant même, dit-il, de ne plus être injuste envers moi. Mon respect et mon admiration sont trop sincères pour que je veuille prendre avantage du hasard inespéré qui m'a valu de vous parler seul à seul. Attendez donc avant de juger durement un homme que vous ne comprenez pas. Je ne dirai rien qui puisse vous être un sujet de trouble et d'ennui, je sollicite seulement la permission de m'expliquer. Voulez-vous reprendre votre chaise ? Elle revint en hésitant à sa place.
« Cela ne peut finir, pensait-elle tristement, que par une déception pour lui. »«
Depuis des années, reprit Alban, j'ai la plus détestable opinion des femmes et la seule raison que j'en puisse donner me condamne moi-même. J'ai été traité indignement par une femme et par suite, mon amour-propre blessé m'a fait prendre tout son sexe en horreur. Ne vous impatientez pas, Miss Émilie, ma faute a reçu son châtiment. J'ai été humiliée et par vous. »
« Monsieur Maurice !»«
De grâce, ne voyez pas une offense où il n'y en a pas trace. Autrefois, j'ai eu le malheur de rencontrer une femme coquette et menteuse. Elle était mon égale par la naissance. Je suis le fils cadet d'un squire de campagne. Je peux dire honnêtement que j'ai été assaigné pour l'aimer de toute mon âme. Jamais il m'est permis de l'assurer sans fatuité après la fin lamentable de mes amours. Jamais elle ne m'a fait entendre que mes sentiments n'étaient point payés de retour. Son père et sa mère, excellentes gens tous deux, approuvaient ce mariage. Elle acceptait mes présents, me laissait faire tous les préparatifs habituels d'une noce. Elle n'eut ni la charité ni la pudeur, ne m'épargnait un affront public. Au jour fixé pour la cérémonie, à l'église, devant une nombreuse assemblée, la mariée fit défaut. Le prêtre, qui attendait comme moi, rentra dans la sacristie où je le rejoignis. Ma fiancée s'était enfuie avec un autre. Avec qui, vous ne le devineriez pas ? Avec son groom. La figure d'Émilie était pourpre d'indignation. « Oh, elle a dû être punie ! Sûrement, monsieur Maurice, elle a dû payer cher son infamie !»«
Mais non, pas du tout.
Elle avait assez d'argent pour se faire épouser et elle s'est laissée glisser sans secousse au niveau de son mari. Ça a été une union fort bien assortie. On m'a raconté qu'ils avaient continué de se griser de compagnie. Tout cela vous répugne et il vaut mieux reprendre mon récit à une date plus récente. Un jour pluvieux de l'automne dernier, les élèves de Miss Ladd étaient allés faire leur promenade habituelle. Tout en trottant sous vos parapluies, n'avez-vous pas remarqué, vous particulièrement, un individu de mine bourrue qui, immobile sur la chaussée, vous dévisageait tandis que vous défiliez devant lui ? Émilie sourit malgré elle. Je ne m'en souviens pas. Vous aviez une jaquette qui vous seyait comme un gant et le plus joli petit chapeau et le plus joli petit chapeau que j'ai jamais vu sur la tête d'une femme. C'était la première fois qu'il m'arrivait de remarquer ces détails. Il me semble que je pourrais faire de mémoire la description des bottines, bouts incluses, que vous aviez aux pieds ce jour-là. Après avoir cru, sincèrement cru, que l'amour était pour moi une illusion perdue, après avoir cru, toujours aussi sincèrement, que la figure du démon me serait plus agréable à contempler que celle d'une femme, voilà où le sort m'avait amené. Oh, n'ayez pas peur de ce qu'il me reste à dire. En votre présence, aussi bien que loin de vous, j'ai encore assez de dignité pour rougir de ma propre démence. Voyons plutôt le côté comique de l'aventure. Que pensez-vous que j'ai fait quand ce joli régiment m'eut dépassé ? Émilie refusa de deviner. Je vous ai suivi jusqu'à la pension et, sous prétexte que j'avais une fille à y placer, je me suis procuré un des prospectus de Milad chez son portier. Il faut vous dire que j'étais venu dans votre voisinage pour prendre des croquis. En retournant à mon auberge, je réfléchis sérieusement. Le résultat de ces graves méditations fut que je partis pour l'étranger. Oh, uniquement pour me distraire et pas du tout en vue d'affaiblir l'impression produite par vous. Alban poursuivit d'un ton moitié plaisant et moitié grave. Au bout de très peu de temps, je revins en Angleterre. J'étais las de ma vie errante. Par grand miracle, il m'arriva une chance favorable. La place de professeur de dessin chez Miss Ladd devint vacante et la directrice fit des annonces dans les journaux afin de se procurer un remplaçant. J'exhibai mes certificats et je fus accepté, ce qui me rendit bien heureux à cause des émoluments fort importants pour un pauvre diable de mon espèce et non parce que mon nouvel emploi me mettait en rapport fréquent avec Miss Emily Brown. Commencez-vous à comprendre pourquoi je vous fatigue du récit de mes petites affaires ? Devinez-vous que je compte également m'occuper de mes intérêts et trouver une place dans le Nord ? Je viens d'être saisi du vif désir d'explorer dans ce but les comtés septentrionaux de l'Angleterre. L'idée que sans cela vous seriez abandonné à cette Mistress Rook n'est qu'une considération absolument secondaire dans mon esprit. Cela m'est bien égal que vous entriez seul chez Sir Gervis Redwood, sans un ami que vous puissiez appeler à votre aide en cas de détresse. Vous dites que je suis fou, mais que font les gens raisonnables quand ils ont affaire à un fou ? Ils n'ont garde de le contredire. Laissez-moi donc prendre votre billet et faire enregistrer vos bagages. Je serai, si vous voulez, votre domestique, vous me paierez mes gages. Certaines jeunes filles auraient été étourdies en s'entendant adresser un tel langage, singulier mélange de sérieux et d'ironie. D'autres eussent été flattées. Bien peu auraient su, comme Émilie, garder leur réserve et leur sang-froid. « Monsieur Maurice, reprit-elle, vous venez de dire que vous me respectez. Je vous crois et je vais vous le prouver. Dois-je comprendre, vous ne jugerez pas mal ma franchise, je le sais. Dois-je comprendre que vous êtes amoureux de moi ?» « Eh bien, oui. » Quoique déjà gagné par le découragement, il avait répondu avec un calme parfait. L'aisance de la jeune fille ne lui laissait rien augurer de bon pour sa cause. « Je ne sais si mon heure viendra, poursuivit-elle, mais pour le moment, je ne sais rien de l'amour, du moins par ma propre expérience, car j'ai souvent entendu mes compagnes décrire les symptômes de cette maladie. » D'après leurs propos, la jeune personne rougit quand son soupirant la prit de l'écouter avec bienveillance. « Est-ce que je rougis ?»« J'avoue, Miss Emily, que vous ne rougissez pas. » Un autre indice de l'amour partagé, toujours d'après mes amis, serait une sorte de tremblement de tout l'être. Est-ce que je tremble ?
Non.
Est-ce que je suis confuse au point de n'oser vous regarder ?
Non.
Est-ce que je m'éloigne avec un air de dignité pour vous jeter ensuite un coup d'œil tendre et timide par-dessus mon épaule ?
Plus tadieux.
Cela est-il, monsieur, oui ou non ?
Assurément, cela n'est pas.
Enfin, vous ai-je jamais donné quelque encouragement ?
Abrégeons, je me suis conduit comme un niais et vous avez pris une manière tout à fait délicate de me le faire sentir.
Cette fois, elle n'essaya pas de continuer sur ce ton d'enjouement. Son accent fut empreint d'une véritable tristesse en reprenant
« Ne vaut-il donc pas mieux, dans votre propre intérêt, nous quitter dès maintenant ? Plus tard, lorsque, de votre affection pour moi, il ne restera plus en vous que le souvenir de la parfaite bonté témoignée à une orpheline, nous pourrons nous revoir avec un plaisir réciproque. Mais je vous en conjure, après ces souffrances si amères, si méritées, endurées par vous, ne me laissez pas le regret de penser que j'ai été, moi aussi, à votre égard, une femme cruelle et sans cœur. » Jamais elle n'avait été si charmante qu'en ce moment. Toute la douceur généreuse de son âme se lisait dans le regard qu'elle attachait sur lui. Il la comprit et ne se sentit pas blessé de cette tendre compassion où il n'entrait aucun mélange de dédain. Très pâle, il s'inclina sur la main de la jeune fille et la baisa.
« Dites-moi que vous m'approuvez, » reprit-elle d'un ton suppliant.
« Je vous obéis. » Il montra du geste le gazon de la pelouse.
« Voyez, dit-il, cette feuille morte agitée par le vent. Croyez-vous possible qu'un amour comme celui que je ressens pour vous puisse, comme cette feuille, dépérir et se dessécher dans l'espace d'une saison ?
Non.
Je vous quitte, Émilie, avec la ferme conviction que tout n'est point fini entre nous. Quoi qu'il arrive dans l'intervalle, j'ai confiance en l'avenir. » Il finissait à peine de prononcer ces mots qu'on entendit une voix appeler de la maison.
« Miss Émilie, Miss Émilie, êtes-vous au jardin ?
Miss Émilie, Miss Émilie, êtes-vous au jardin ?»
Émilie sortit de l'ombre des arbres et aussitôt une servante se précipita vers elle, un télégramme à la main. La jeune fille le regardait avec une vague inquiétude. Dans sa courte expérience, le souvenir du télégraphe était lié à celui des mauvaises nouvelles. Elle ouvrit le papier, le lut et, très pâle, toute tremblante, le laissa tomber à ses pieds.
« Lisez !» dit-elle d'une voix faible lorsqu'Alban, qui le ramassa, voulut le lui rendre.
Il lut « Partez pour Londres sur le champ. Miss Laetitia est dangereusement malade. »
« Votre tante ? » demanda-t-il.
« Oui, ma tante. »